Europe 1. Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Moscou le samedi 7 octobre 2006, vers 16h. Anna Politkovskaya vient d'aller faire des courses au supermarché Ramstor. Elle n'a pas vu qu'on la suivait depuis plusieurs jours. Elle rentre chez elle avec son cabas à provisions. Elle habite en plein centre, au 8 de la rue Lesnaya. Et elle arrive dans le hall de son immeuble. Elle appelle l'ascenseur. Et là, surgit un homme qui attendait planqué. Il lève un pistolet Makarov équipé d'un silencieux et... Il tire 4 fois. Anna s'écroule dans l'ascenseur. L'homme pose le pistolet sur le sol sans se presser. Et il sort. Mission accomplie. Une voisine découvre le corps 1 heure plus tard.
Anna Politkovskaya était journaliste. Elle avait couvert la guerre en Tchétchénie et dénoncé les atrocités menées par l'armée russe. Au passage, elle critiquait les méthodes de Vladimir Poutine. Elle a été retrouvée assassinée cet après-midi à Moscou, où elle habitait. Magali Forestier.
La journaliste russe a été abattue dans son ascenseur cet après-midi. À 48 ans, elle était l'une des très rares journalistes à couvrir encore la Tchétchénie sur le terrain.
La nouvelle de l'assassinat d'Anna Politkovskaya fait le tour du monde en quelques minutes. C'est que cette femme, qui vient de mourir dans cet ascenseur, c'était pas n'importe qui. Anna Politkovskaya, fille de diplomate, née à New York, était une journaliste rare, trop rare en Russie, qui enquêtait sur la corruption, et notamment en Tchétchénie, sur les juges, les policiers, les gouverneurs qui s'en mettent plein les poches, et aussi les crimes de guerre commis par l'armée russe.
C'est la seule, vraiment la seule journaliste qui n'arrêtait pas depuis le début de la guerre en Tchétchénie, parler de cette guerre, de l'armée russe, de leurs crimes, de crimes de Poutine et de gouvernement de Poutine et de la situation en Russie qui ne pouvait pas accepter cet assassinat et cet silence qui est après sa mort. Ça montre vraiment qu'aujourd'hui, le Kremlin et la politique en Russie mais n'a plus aucune limite.
Anna Politkovskaya travaillait pour un hebdomadaire d'investigation, Novaya Gazeta, un magazine non officiel dans le collimateur du pouvoir. Ses collègues racontent qu'elle avait reçu des menaces.
C'était des menaces téléphoniques, des menaces plupart anonymes et il n'y a pas de traces de cette personne qui sont de l'autre côté de la ligne. On disait, si tu écris telle ou telle chose, tu dois penser 2-3 fois avant d'écrire. Des menaces qui ont pour le but de garder cette personne dans la vigilance constante et dans la nervosité pour intimider une personne.
Après l'assassinat d'Anna, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta est prêt à jeter l'éponge. Il veut arrêter, renoncer, fermer le journal. Les amis de Poutine ont mis la main sur toute la presse, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux. Novaya Gazeta est le dernier rempart. Il n'a jamais été aussi fragile. Mais ce sont ces journalistes qui le convainquent qu'il faut continuer.
Notre journal a déclaré qu'après la mort d'Anna Politkovskaya, que les journalistes de Novaya Gazeta continueront à travailler sur ces sujets-là. Les thèmes sur lesquels elle travaillait, Caucase, Tchétchénie, corruption.
Les obsèques d'Anna Politkovskaya ont lieu 3 jours après, suivies par des milliers de personnes. Et le Kremlin? Qu'est-ce qu'il a à dire, le Kremlin, sur cet assassinat? Eh ben, rien. Ничего. Le lendemain du crime, on pose la question au porte-parole de la présidence lors de sa conférence de presse quotidienne.
Que pensez-vous de la mort d'Anna Politkovskaya? Rien. Ça n'est pas à l'ordre du jour.
Vladimir Poutine met 3 jours avant de s'exprimer.
Quel que soit l'auteur de ce crime et ses motivations, nous devons déclarer que c'est un crime horrible et cruel. Bien sûr, il ne doit pas rester impuni. Mais je dois dire aussi que les publications de cette journaliste avaient une influence insignifiante sur l'opinion publique. Autrement dit, pourquoi aurions-nous fait assassiner quelqu'un qui n'avait aucune importance? Sauf que c'est faiblard comme argument. Et surtout, c'est un mensonge. Anna Politkovskaya dérangeait beaucoup plus que ne le dit Vladimir Poutine. Un exemple. 7 mois avant d'être exécutée, Anna Politkovskaya publie un article sur une affaire incroyable. Dans plusieurs écoles de Tchétchénie, des élèves sont frappés d'une maladie étrange. Alors elle va sur place, à Tchelkovskaya, et elle se rend à l'hôpital. Et là, elle tombe sur des dizaines et des dizaines d'élèves agités de convulsions qui se tordent dans tous les sens, dont le visage passe par toutes les couleurs. Une horreur. Et elle interviewe le docteur Rabanov. Je suis content de vous voir. On est complètement oubliés ici. Tous ces signes manifestés par autant d'enfants, c'est pas de l'hystérie. Ils disent que c'est de l'hystérie. Ils disent qu'ils simulent, mais c'est pas vrai. Ils ont été empoisonnés. Empoisonnés, vous entendez? Alors pourquoi? Par qui, ça, j'en sais rien. Voilà ce qu'il y avait dans son article. Elle raconte qu'ensuite, il y a eu une commission d'enquête qui a publié un rapport, mais que 2 jours plus tard, ce rapport a disparu. Sauf qu'elle, elle l'a retrouvé et elle en publie un extrait qui dit en gros que c'est un empoisonnement, c'est certain. Avec quelle substance? Les rapporteurs demandent qu'on fasse des analyses. Anna Politkovskaya raconte tout ça dans l'article qu'elle publie 6 mois avant d'être assassinée. Alors oui, elle dérangeait le pouvoir, parce qu'à travers cet article, on comprenait assez clairement que les Russes empoisonnaient des petits Tchétchènes. Alors non, monsieur Poutine, son influence n'était pas insignifiante, comme vous dites. Ces dernières années, Anna Politkovskaya allait plus de 20 fois par an en reportage en Tchétchénie. Et elle disait elle-même d'ailleurs qu'elle ne racontait pas tout de ce qu'elle voyait là-bas.
Ça fait longtemps que je ne raconte plus à mes amis ce qui se passe en Tchétchénie. J'ai cessé de le faire au début de la Deuxième Guerre déjà, lorsque je revenais de mon premier voyage et que j'essayais d'en parler. Notre société rejette ces informations. C'est un énorme problème, même parmi mes proches.
Déjà il y a 2 ans, Anna avait failli y laisser la peau. C'était en 2004. Il y avait eu une prise d'otage dans une école à Beslan, en Ossétie. Des séparatistes tchétchènes avaient investi l'école, retenant prisonniers plus de 1000 gamins. L'armée russe était intervenue, elle avait signé un carnage. 334 morts, dont 186 enfants. Anna voulait absolument y aller, elle voulait enquêter sur ce carnage. Le Kremlin lui avait fait passer le message.
Nous vous déconseillons d'aller là-bas. Votre sécurité n'est pas assurée.
Elle y était allée quand même. Et dans l'avion, naïvement, elle avait bu un thé. Et avant même l'atterrissage, elle s'était sentie mal. On l'avait empoisonnée. Elle est tombée dans le coma. Empoisonnée par quoi? Par quel produit? Oh ça, on ne le saura jamais. Elle avait fait une prise de sang, mais figurez-vous que le laboratoire de la police a détruit l'échantillon par erreur. Hein? C'est ballot. Heureusement, elle s'en est sortie. Mais 1 an plus tôt, son rédacteur en chef, Yuri Tchekotchikin, n'avait pas eu cette chance. Lui aussi, il avait bu de la potion magique. Mais lui, il en est mort. Mort naturelle, selon la justice russe. Naturelle. Tu parles. Il est de notoriété publique que le FSB, le nouveau KGB, utilise le poison comme une arme. Et d'ailleurs, avant son assassinat, Anna s'étonnait régulièrement d'être toujours en vie.
Vous savez, oui, je comprends le sens de votre question. Pourquoi encore...
Je comprends le sens de votre question. Pourquoi suis-je encore en vie? Très franchement, c'est presque un miracle. Oui, un miracle. Quelqu'un tient pour l'instant à me garder sur cette terre. C'est vraiment un miracle.
Alors maintenant, est-ce qu'il va y avoir une enquête sur l'assassinat de Madame Politkovskaya? Oui. Et elle sera dirigée par le procureur général de Russie, en personne, Youri Tchaïka. Alors voyons si la justice est libre en Russie. L'assassinat d'Anna a été filmé. Il y avait une caméra placée en hauteur dans le hall de son immeuble. Malheureusement, le tueur portait une casquette de baseball, on ne voit pas bien son visage. En revanche, on le voit qui rejoint un complice et on devine un troisième homme qui aurait pu faire le guet. L'arme, vous vous en souvenez, le tueur l'a laissée sur place, par terre. C'est un pistolet Marakov, qui équipe l'armée russe. Et l'armée neuve, elle n'a servi qu'une seule fois pour tuer Anna. Elle est intraçable, bien sûr, et le numéro de série du silencieux a été limé. L'enquête s'oriente assez vite vers une piste tchétchène. Trois hommes qui se ressemblent, les enquêteurs pensent à des frères. Et les Tchétchènes opèrent souvent en fratrie. C'est un peu leur créneau, ce genre d'exécution. Reste à savoir qui les a payés, parce qu'en général, ces types-là ne font pas ça pour rien. Après quoi, les mois passent et rien ne semble avancer. Et puis, le 27 août 2007, 11 mois après l'assassinat, Vladimir Poutine annonce l'arrestation de 10 suspects. Et il le fait lui-même, façon Poutine, face caméra, avec à sa gauche le procureur général et à sa droite le directeur des services secrets.
Nous tenons les exécutants, mais aussi les organisateurs.
Ça alors? Bon, en vérité, personne n'y croit. Poutine d'ailleurs est allé un peu vite, et peut-être qu'il a fait exprès pour bien planter l'enquête. Parce que sur les 10 suspects arrêtés, 2 sont libérés tout de suite. Et un troisième, ça c'est embêtant, est un agent des services secrets, un officier du FSB. Moyennant quoi le FSB, à partir de ce moment-là, va s'acharner à brouiller l'enquête. Quelques jours plus tard, le procureur Tchaïka, pour détourner l'attention, annonce que le commanditaire est identifié. Mais que c'est embêtant, il est réfugié à l'étranger. Un peu plus tard, il ajoute
« Celui qui a ordonné l'assassinat est un homme puissant, qui est recherché par la Russie, c'est un corrupteur et c'est un corrompu. »
Et là, tout le monde voit de qui il parle. Boris Berezovsky, le milliardaire qui vit à Londres et que Poutine déteste. Alors il lui colle le meurtre d'Anna Politkovskaya, au prétexte qu'il a la réputation d'être proche de la mafia tchétchène. Et puis, en octobre 2008, le procureur annonce, triomphalement, que l'enquête est terminée et que 4 personnes vont être déférées devant un tribunal militaire. Pourquoi militaire? Parce que parmi les 4, il y a bien un officier des services secrets. C'est lui qui aurait fourni l'adresse de la journaliste. Comme prévu, les 2 autres sont des frères, des Tchétchènes. Ils auraient surveillé Anna dans les jours qui précèdent. Le 4e est un ancien policier russe, mais aucun d'entre eux n'est le tireur. Le tireur, selon le procureur Tchaïka, se serait lui aussi réfugié à l'étranger. C'est donc un procès sans tueur et sans commanditaire qui s'ouvre le 17 novembre 2008. Et aussi un procès sans espoir. Comme le dit le propre fils d'Anna Politkovskaya, dès le premier jour.
Je n'ai absolument aucun espoir qu'au cours de ce procès, le nom du commanditaire soit révélé. Les gens qui sont jugés, là, n'ont pas de lien direct avec lui. C'est un groupe criminel qui a fait ça pour de l'argent, c'est tout.
Dès l'ouverture, les services secrets du FSB réclament le huis clos, c'est-à-dire un procès sans presse et sans public. Vous comprenez, on va évoquer des documents confidentiels, et patati et patata. Le procureur refuse. Le juge tergiverse Et puis il finit par trancher en faveur d'un procès public. Et puis deux jours après, il fait marche arrière et il instaure le huis clos.
Ce sont des jurés qui me l'ont demandé. Ils ont reçu des pressions.
Sauf que le même jour, l'un des jurés va dire à la radio que c'est faux, que personne ne s'est plaint. Et dans la foulée, 19 des 20 jurés écrivent au juge pour protester. On n'a jamais demandé le huis clos, jamais. Et après, le président annonce que le procès est suspendu pendant 2 semaines, au motif que 2 avocats des prévenus sont indisponibles. Mais l'un de ses avocats vient dire « Pas du tout, je suis disponible !» Il est bien parti, ce procès. Et quand les audiences reprennent, les obstacles s'accumulent. Par exemple, Anna Politkovskaya était sur écoute à l'initiative des services secrets du FSB. Le tribunal réclame d'entendre les enregistrements. Réponse ? Impossible. Sûreté de l'État. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir la transcription de ces écoutes ? Oui, bien sûr. Les services secrets remettent la transcription des écoutes de la journaliste. Oh, c'est idiot. Ça s'arrête à 14h le jour du meurtre. 2 heures avant l'assassinat.
Et le reste ?
Demande un juré.
Problème technique,
répond le représentant du FSB à la barre. Serait-il possible d'entendre certains agents du FSB ?
Niet, sûreté de l'État.
Voilà donc un procès qui est mal parti. Et là, on apprend de la bouche du procureur Tchaïka que ça y est, le tireur est identifié. Ah bon ? Et qui est-ce ? Il s'appellerait Roustam Makhmoudov. Et ça serait le frère des 2 Tchétchènes qui sont déjà dans le box des accusés. Eh bien, qu'on l'amène devant le tribunal.
Problème !
Répond le procureur.
Il a fui à l'étranger.
C'est bien la preuve qu'il s'agit d'un complot orchestré par des gens qui vivent à l'étranger pour discréditer les autorités de notre pays. Ah, on aurait tué Anna Politkovskaya pour discréditer la Russie. La théorie du complot. Les audiences se déroulant à huis clos, j'ai un peu de mal à vous raconter la suite, mais en revanche, je peux vous donner le verdict final. Il est assez étonnant. La justice russe est plus indépendante qu'on ne le croit. Ils sont tous acquitté, figurez-vous, par manque de preuves. Le procureur général se sent humilié et dans la foulée, la Cour suprême casse le verdict d'acquittement. Il y aura donc un autre procès. Mais entre-temps, ça bouge dans l'enquête. Au cours d'une conférence de presse, le procureur Tchaïka annonce
« Nous avons arrêté Roustam Makhmoudov. Il a été interpellé en Tchétchénie, de nouveaux éléments sont apparus, nous allons résoudre cette affaire. »
Normalement, le procès devait s'ouvrir dans la foulée. Mais évidemment, avec ces nouveaux éléments, il faut reprendre l'enquête et donc reporter le procès. Quatre ans. Cette nouvelle enquête va durer 4 ans. Et elle est marquée par l'entrée en scène d'un nouveau protagoniste, un certain Dimitri Pavlyuchenkov, qui n'est pas n'importe qui, c'est le chef de la 4e section de la police de Moscou. Il est en charge des filatures. Au premier procès, il était l'un des principaux témoins à charge de l'accusation. Sauf que chez lui, on a retrouvé des photos de la journaliste. Il reconnaît qu'il l'a fait suivre pendant des mois et qu'il a fait ça pour de l'argent.
Nous l'avons suivie pendant plusieurs mois. Elle était dans ses pensées, elle avait l'air préoccupée. Son père venait de mourir, sa fille était enceinte. Je pense pas qu'elle se soit aperçue qu'on la suivait. Elle avait d'autres préoccupations que de regarder par-dessus son épaule.
Mais il a fait mieux que ça, ce policier Ripou. Il avoue que c'est lui qui a fourni l'arme, le pistolet Makarov. On est peut-être en train de s'approcher de la vérité. Enfin. Mais ira-t-on jusqu'à s'approcher du vrai commanditaire de cet assassinat ? Ça, c'est moins sûr. Parce que dans l'esprit des proches d'Anna, ça devient très clair. celui qui a donné l'ordre de l'abattre. C'est Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, le pantin sanguinaire mis en place par Moscou, qui a toujours considéré qu'il avait une sorte de permis de tuer, qui il voulait, qui le dérangeait, qui il n'aimait pas. Il avait d'ailleurs dit à Anna Politkovskaya elle-même, dans une interview.
« Mes ennemis, je les tue !»
Elle n'avait pas compris qu'elle était la prochaine sur la liste. Et c'est là qu'on se souvient qu'elle a été assassinée le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, comme un cadeau. « Bon anniversaire, monsieur Poutine !» Mais là, je m'égare parce que tout ça, c'est ce que pense la famille, c'est ce que pensent les journalistes de Novaya Gazeta, mais ça n'est pas ce que pense le procureur. Donc il ne faut pas rêver, l'enquête ne remontera pas jusqu'à l'innommable Kadyrov. Et d'ailleurs le flic Ripou, qui vient d'avouer qu'il a fait filocher Anna pendant des mois, qu'il a fourni l'arme au tueur, désigne un autre commanditaire. Et d'après vous? Eh bien Boris Berezovsky, le milliardaire réfugié à Londres, l'ennemi personnel de Poutine. C'est lui qui a tiré les ficelles de toute cette horrible affaire. Et pourquoi? Pour discréditer la Russie, pour que tout le monde pense que le Kremlin fait assassiner des journalistes. De toute façon, Berezovsky, on peut pas aller lui chercher des noises. Il est mort. C'est commode, hein, les morts. On peut leur coller tous les malheurs du monde. Voilà donc la vérité officielle. Et bien sûr, c'est cette vérité qui va triompher au cours du nouveau procès qui s'ouvre en mai 2014, 8 ans après l'assassinat d'Anna Politkovskaya. Et qui cette fois se conclut par des condamnations. C'est l'essentiel. La justice russe a trouvé et condamné les assassins. Roustam Makhmoudov, le tireur, est condamné à la prison à vie. Même peine pour son oncle qui aurait été l'organisateur. Ses deux frères, les complices, écopent de 12 et 14 ans de prison. L'ancien policier qui avait donné l'adresse d'Anna prend 20 ans. Et le policier de Moscou qui avait filoché Anna pendant des mois et fourni l'arme, écope de 11 ans de camp spécial. Et ça s'arrête là. Vous me direz, c'est pas mal. C'est mieux que rien. Il est probable que tous ces gens-là sont les exécutants du meurtre de la journaliste. C'est déjà bien qu'ils soient condamnés, mais qui a donné l'ordre? Qui a payé ces Tchétchènes? Ça, on ne le saura jamais avec certitude. Le fils d'Anna, en tout cas, Ilya Politkovsky, est très clair devant les caméras, juste après le verdict.
Aujourd'hui comme hier, je considère que ces gens sont impliqués dans le meurtre. Mais il est important d'ajouter quelque chose, il n'y avait pas le commanditaire dans la salle d'audience. Donc, dire que je suis satisfait du verdict d'aujourd'hui est prématuré. Je ne serai satisfait que quand le verdict concernera le commanditaire.
La justice russe s'est arrêtée en chemin. Au siège de Novaya Gazeta, le bureau d'Anna Politkovskaya est resté tel quel, comme une sorte de petit musée. Il y a sur le bureau un palmier en pot, et tous les jours, il continue de pousser.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous ai donc raconté aujourd'hui l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya en 2006 à Moscou, l'enquête qui a suivi les deux procès qui ont sans doute permis la condamnation des exécutants mais qui n'ont pas désigné le commanditaire. Et maintenant, je vous propose de débriefer tout ça avec mes deux invités, Anne Niva qui est grand reporter, qui a beaucoup couvert la Tchétchénie et qui a bien connu Anna Politkovskaya, et Johan Beer qui suit cette région à Reporters sans frontières. Pour commencer, on pourrait parler d'elle. Quand même, du travail qu'elle faisait.
Elle le mérite.
Qui n'était pas, contrairement à ce que disait Poutine, insignifiant. Elle avait un courage incroyable. Vous l'avez vu au travail, vous? Anne Nivin.
Non, mais Poutine peut dire ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est pas ce que pense forcément Poutine, mais ce que pensent ceux qui l'ont lu. Et tous ceux qui l'ont lu savent que son travail était utile. C'était une cohorte de victimes de toutes les pires choses qui se passaient en Tchétchénie, qui arrivaient dans son bureau à Moscou, qui lui envoyaient des lettres. Et elle partait parce qu'on lui avait écrit, parce qu'on lui avait indiqué que dans tel village il se passait tel truc, etc. Elle partait faire l'enquête. Donc c'était un travail absolument insensé. C'est le travail d'enquête de forcené moi je faisais à ma façon de mon côté en Tchétchénie et qu'elle faisait à sa façon unique comme journaliste russe.
Il n'y a pas
une autre journaliste russe, il n'y en a pas un autre qui faisait le travail qu'elle a fait en Tchétchénie.
Quels étaient ses sujets de prédilection ?
Et elle n'a pas été remplacée. On dit que tout le monde est remplaçable. Non, elle était irremplaçable. Aujourd'hui, Johan le dira, il y a effectivement des gens qui font du très bon travail. Mais pour ce qui était de cette sale guerre de Tchétchénie, il n'y avait que le travail d'Anna Politkovskaya.
Dans les années où vous l'avez connue là-bas, quels étaient ses sujets de prédilection ?
C'était le terrain, c'était aller dans la guerre et dans la guerre raconter ce qu'elle voyait, parce que il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'était qu'on avait ce petit territoire de Tchétchénie qui était sous les coups de boutoir de cette armée fédérale russe, David contre Goliath, et que c'était juste après le 11 septembre 2001, donc c'était la folie des accusations de terrorisme international, etc. On avait le peuple tchétchène, des civils dont je faisais partie, puisque j'y étais avec ces civils, qui se prenaient un tapis de bombes de l'armée fédérale russe sur la tête. Donc il y a eu des centaines de milliers de morts, il y a eu des exactions, il y a eu...
Ça
ne cessait pas. Et c'est ça qu'elle racontait. Et pour le raconter, fallait aller le voir. Et évidemment, ça déplaisait aux autorités russes, puisque elle racontait ce qu'elle voyait, et elle voyait que les autorités russes, commettaient ces exactions. Elle le racontait, elle mettait en cause, elle incriminait les forces russes.
Son autre dada, Johan Beer, c'était la corruption.
Ouais,
elle était totalement obsédée par ça. La corruption des gouverneurs, de tout ce que Moscou avait placé à l'issue de la guerre au pouvoir en Tchétchénie.
Et en même temps, la corruption, c'est la question en Russie, justement la question du pouvoir, la question, enfin une question vraiment essentielle, puisqu'elle traverse absolument tous les sujets, et notamment celui de l'arbitraire du pouvoir. C'est vraiment quelque chose d'assez frappant, et la société civile, de quoi elle se plaint le plus en Russie, c'est de cette loi du plus fort, en fait, qui règne dans ce pays. Donc si vous êtes puissant, tous les juges seront de votre côté, vous n'avez aucun risque, vous ne courez aucun risque. Si en revanche, vous ne l'êtes pas, ou si vous déplaisez, alors là, effectivement, vous n'êtes absolument pas protégé. Donc c'est vraiment cette notion de corruption est centrale en Russie dans le problème de l'état de droit. Et ce qui est à noter, c'est qu'aujourd'hui, rien n'a changé, enfin... La Tchétchénie n'est plus à feu et à sang comme elle l'a été, mais elle reste dirigée par un dictateur complètement barbare et sanguinaire, Ramzan Kadyrov, qui est le même. Et c'est, pour ce qui concerne l'information, un trou noir de l'information. C'est vraiment une région d'où il est extrêmement difficile de sortir des informations, de savoir exactement ce qui se passe.
Niva, comment est-ce qu'on travaillait en Tchétchénie dans les années 2000 ?
Mais c'était très difficile. Parce que c'était la guerre et parce que c'est par définition difficile de raconter une guerre puisque il faut y être, il faut y vivre ce qu'elle faisait, ce que je faisais et survivre.
Chez l'habitant.
Bien sûr, chez l'habitant, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il y a rien de fonctionné en Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est un mouchoir de poche, hein, c'est grand comme Rhône-Alpes. Donc il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien de tout ça. Donc évidemment, on habitait chez les uns, chez les autres, on se couchait au crépuscule quand on arrivait devant une maison, on toquait à la porte. Et on était accueillis, on vous nourrissait. Et s'il n'y avait rien à manger, ben on mangeait rien. Et puis le lendemain, on était réveillés à l'aube et on repartait. On essayait de comprendre ce qui se passait. La corruption, je me souviens que Anna est une des premières, la première à avoir parlé d'une chose abominable qui était que pour récupérer les corps, quand vous étiez villageois tchétchène et que vous aviez perdu un membre de votre famille, que vous ne saviez pas où il était, eh bien il fallait vous adresser aux autorités policières locales, etc., qui faisaient commerce des corps. C'est-à-dire que vous deviez donner de l'argent pour pouvoir récupérer ce membre de votre famille et l'enterrer. Vous imaginez ? Tout ça, elle l'a raconté. Donc c'était tout cela qu'elle racontait. C'était extrêmement choquant. Et les Russes, évidemment, le grand public russe ne voulait pas l'entendre. Ce oui, elle raconte.
Il y a ce passage qui est quand même
parce
très,
que ça fait mal
très fort
ça.
Quand elle dit je rentrais, je pouvais pas raconter, ça n'intéressait personne ce que
mais
j'avais
oui, mais
à
Christophe,
raconter.
Moi j'avais la même impression. Sauf que moi je raconte. Moi la différence entre moi et Anna, c'est que moi je ne suis pas russe. Oui. Je suis française et ça m'a sans doute sauvée parce qu'elle, si elle est morte, c'est qu'elle est russe et parce que c'était une russe qui critiquait des russes et que ça, le pouvoir russe ne l'a pas supporté qu'elle soit capable à ce point-là de critiquer autant en profondeur ce que les Russes étaient en train de faire en Tchétchénie et le fait qu'il n'ait pas réussi finalement à gagner cette guerre. Elle insufflait le doute. Le problème, c'est que personne n'écoutait ce qu'elle disait. Parce que ce journal Novaya Gazeta, Dieu merci, existe, mais il n'a pas l'influence qu'a une grande télévision, par exemple.
Restons là-bas dans,
télés,
dans, dans ces années-là, quelques instants. Est-ce qu'elle travaillait dans la peur, à votre connaissance?
Bien sûr.
Il y a des conditions. Elle était parfaitement consciente et informée des risques qu'elle courait. Et c'est justement ce qui est extrêmement impressionnant et admirable, c'est qu'elle avait aucune illusion sur le système dans lequel elle mettait les pieds et sur les risques qu'impliquaient ses activités. C'est ça qui est extrêmement impressionnant, qui saute à la figure quand on la voit en interview. Elle le dit clairement et pourtant, ça ne l'empêchait pas d'agir et de faire ses enquêtes.
On ne peut pas s'arrêter. Moi, combien de fois on me l'a posé cette question sur... On me disait, mais pourquoi vous continuez à y aller? C'est trop dangereux, etc. Et on pose toujours cette question à des reporters de guerre.
Toujours.
Mais on continue à y aller parce qu'on est en train de faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Pourquoi s'arrêterait-on? Pour quelles raisons cesserait-on d'y aller? On en avait beaucoup parlé avec Anna de cela.
Elle hésitait quand même.
Non, c'est pas hésiter, c'est se poser des questions. Est-ce qu'on se demandait si on n'était pas en train de devenir folle à continuer à y aller? Il n'y avait pas grand monde à part nous deux qui y allions à cette époque. Je parle des mois 99-2000 qui sont des mois abominables. Le pic de la guerre, il y avait très peu de journalistes qui étaient à l'intérieur. Donc on se demandait, on nous prenait pour des folles de continuer à y aller. Elle se posait la question, on en parlait, on a publié notre premier livre en même temps, en 2000 en France, c'est la traduction de son premier livre. On en parlait et elle comme moi répondait à cette question en disant qu'elle n'avait pas terminé ce qu'elle avait à faire. Mais je dois dire aussi une chose, c'est qu'elle se sentait protégée, comme moi je me sentais protégée par mon passeport français. Elle se sentait protégée par son passeport américain. Parce qu'elle
avait la double nationalité.
Elle avait la double nationalité. Ses parents étaient des diplomates soviétiques, elle était née sur le territoire américain, et elle avait également un passeport américain. Ça ne l'a pas protégée.
L'enquête, elle permet, malgré tout, l'arrestation d'un certain nombre de personnes qui ont l'air d'être les exécutants, les vrais exécutants de ce meurtre. Sur ce plan-là, c'est assez positif.
Alors c'est vrai que c'est une chose rare en Russie. L'impunité pour les assassinats et les agressions de journalistes, c'est vraiment quelque chose qui prévaut. Donc de manière générale, la norme, c'est qu'on ne trouve personne. Ou en tout cas qu'il ne se passe rien. Donc c'est vrai que là, aboutir à l'identification et la condamnation de personnes qui ont effectivement partie liée au meurtre, c'est quelque chose d'assez rare.
Poutine ne pouvait pas se permettre de ne pas poser des têtes sur la table.
C'était compliqué en effet, vu le retentissement international de l'affaire, vu la double nationalité d'Anna Politkovskaya, ça aurait été très compliqué. Et en plus, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que Novaya Gazeta, donc le journal d'Anna Politkovskaya, a fait pression tout le long. Elle a mené l'enquête de son côté. Et durant le premier procès, Novaya Gazeta a directement collaboré avec l'enquête, a fourni des preuves, des éléments. Et dans le second procès, la confiance n'était plus, mais néanmoins, Novaya Gazeta avançait de son côté. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tribunal était sous pression parce que Novaya Gazeta avait des éléments et que de son côté, le journal avait parfaitement établi déjà la responsabilité des uns et des autres. Et que donc, ça devenait absolument impossible de sortir de là les mains vides. Néanmoins, encore une fois, l'absence du commanditaire, et puis énormément de zones d'ombre dans le procès que vous avez notamment souligné, pose quand même énormément de questions et interdisent d'être satisfait. On n'est absolument pas satisfait par ce qui s'est passé.
Le commanditaire, c'est pas Berezovski, on est d'accord là-dessus.
Ouais, non,
ça, c'était un enfumage. Trop gros, finalement.
Pour que quelqu'un
y croit.
À la russe.
Est-ce que c'était Kadyrov?
C'est beaucoup plus crédible, en tout cas. Alors, moi, là, j'ai pas d'éléments, mais ça semble en tout cas beaucoup plus crédible que qui était vraiment mis en cause par Anna Politkovskaya. Effectivement, c'était le Kremlin et c'était Kadyrov.
Qui gênait le système le plus?
Mais bien sûr,
c'était
le système au pouvoir en Tchétchénie. Et Kadyrov est coutumier du fait. Et il y a vraiment...
Oui, il emploie des tueurs à gages régulièrement pour se débarrasser d'opposants.
Mais c'est un tueur. Kadyrov est un tueur. C'est un petit bandit de bas étage qui, grâce à la mort de son son père, parce que je rappelle que le père de Kadyrov était avant Kadyrov celui qui dirigeait la Tchétchénie, donc il y a eu Kadyrov père, et ensuite Kadyrov fils. Et que maintenant c'est Kadyrov fils, tout le monde a oublié le père, mais le fils est encore pire que le père, parce que justement il est d'une vulgarité abominable, il est quelqu'un qui n'a aucune finesse, qui est...
pure et simple.
Absolument. Et qui était le meneur d'une bande de tueurs pendant toutes ces années de guerre où j'étais en Tchétchénie, où Anna Politkovskaya était en Tchétchénie, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique.
La présence d'un agent du FSB sur le banc des accusés au premier procès, qui n'est plus là au deuxième procès parce que lui, il a bénéficié d'un procès militaire, et il part d'ailleurs non pas en prison mais en camp de rééducation, est quelque chose de très troublant. Il y avait donc un agent secret dans cette équipe-là?
Bah, non seulement il y avait un agent secret,
mais russe,
mais en plus dans le deuxième procès, donc enfin le dernier en date, il faut quand même noter le rôle essentiel du lieutenant-colonel de la police de Moscou, Pavlyuchenkov, et oui. ça a été établi, il a été condamné cet homme-là. Néanmoins,
pendant... il a fait ça pour l'argent, dit-il.
Dit-il. Et pendant les deux premiers procès, en tout cas, il a contribué à brouiller les pistes tout le long. Il a été effectivement le principal témoin de l'accusation. Ensuite, il a plaidé coupable, ce qui lui a permis d'avoir un statut spécial, ce qui lui a permis de négocier un huis clos. Mm-hmm. Donc il a vraiment joué très finement pour minimiser au maximum sa responsabilité et sa peine. Il dit qu'il a fait ça pour l'argent. Néanmoins, reste énormément de zones d'ombre sur la responsabilité de ses collègues, puisqu'il était en fonction à la police de Moscou au moment des faits. Et donc il a mis en branle la police de Moscou pour établir cette filature, obtenir une arme, etc.
Et donc surtout, d'accord, on a maintenant, on a avancé, Johan a raison, etc., même si on n'est pas satisfait. Mais personne ne pose la question, la seule question valable, personne ne met sur la table le seul débat intéressant, c'est pourquoi aurait-on tué Anna Politkovskaya parce qu'elle faisait son métier de journaliste? Est-ce que parce qu'on fait son métier de journaliste, en Russie aujourd'hui, on a le droit d'être tué, d'être assassiné? Mais ce débat n'est pas mis sur la table.
Alors, où est-ce qu'on en est d'ailleurs aujourd'hui en Russie et où en est Novaya Gazeta? Est-ce que le journal existe toujours?
Oui, bien
sûr. Il existe toujours et Novaya Gazeta reste aujourd'hui un porte-étendard de la presse indépendante en Russie.
C'est le seul?
C'est pas le seul. Il y a en Russie un certain nombre de médias indépendants, alors dont il faut saluer le courage, parce qu'il y a vraiment un secteur de la presse russe qui fait un travail d'une excellente qualité. Par contre, le truc, c'est que ils restent dans une niche et que dès lors qu'ils en sortent, dès lors qu'ils arrivent à avoir un peu d'influence dans la population générale, ils sont très brutalement remis en place. Et chaque année, ces dernières années, on a vu ça.
Donc on voit leur intérêt d'être insignifiant, comme
disait. La Russie étant un pays continent, ils ont des problèmes de distribution, évidemment, et ils sont cantonnés, si je dirais, à ne pas avoir malheureusement l'impact qu'ils devraient avoir. Et c'est en cela que Vladimir Poutine, c'est là-dedans que Vladimir Poutine s'est engouffré quand il dit qu'elle n'avait pas d'influence. Il savait parfaitement ce qu'il disait.
Et donc Novaya Gazeta continue de travailler sur la Tchétchénie et aujourd'hui, notamment, une reporter comme Elena Milashina continue d'alimenter le monde, en fait, sur ce qui se passe. Et par exemple, c'est elle qui a révélé les purges visant les homosexuels, entre autres, en Tchétchénie au début de l'année dernière. Et ça lui a valu d'ailleurs de choisir un exil temporaire. Elle est extrêmement menacée et là encore, directement
c'est
par le pouvoir tchétchène.
C'est-à-dire un exil temporaire, elle ne vit pas à...
Actuellement, non. Actuellement, elle est à l'étranger pendant quelques temps, mais elle a bien l'intention de rentrer. Mais il y a plusieurs autres journalistes de Novaya Gazeta qui sont partis. Il y a Yulia Latunina, qui est une journaliste de Novaya Gazeta, qui a choisi l'exil, pour le coup, sans perspective de retour, en septembre dernier, une grande star, suite à des menaces, parce que sa voiture a brûlé. Avant ça, il y avait eu un acide très étrange qui avait été aspergé sur sa maison et celle de ses parents. Donc le climat est extrêmement délétère
incessant.
Encore aujourd'hui.
C'est incessant, il y a une méfiance permanente. Je passe mon temps en Russie, là je suis en train de terminer un film et un livre sur la Russie, qui vont sortir au mois de mars.
En Russie ou en Tchétchénie?
En Russie.
Vous pourriez aller en
Tchétchénie? Mais
aujourd'hui,
la Tchétchénie, mon cher Christophe, fait partie de la Russie.
De la Fédération de Russie.
Jusqu'à preuve du contraire.
Si mais vous pourriez aller dans cette province tchétchène aujourd'hui, travailler?
Bien sûr qu'on peut y aller. Si on est accrédité pour travailler en Russie, on est accrédité pour travailler en tout point de la Fédération de Russie.
D'accord.
Bon, je trouve que la façon dont les journalistes indépendants, dont on vient de parler là à l'instant avec Johan en Russie, est abominable. C'est-à-dire qu'ils sont dans des conditions atroce. Nous, les journalistes étrangers qui sommes de passage, on a beaucoup plus de chance. Mais on doit reconnaître et on doit savoir cela. Ils sont en danger permanent.
Merci à tous les deux. Merci d'avoir ressuscité cette histoire.
Ça nous a fait très plaisir.
C'est
parce
vrai?
Parce que Anna Politkovskaya, comme je l'ai dit, était unique et il faut se souvenir de ces journalistes.
Et l'onde de choc de sa mort pèse encore aujourd'hui sur les journalistes
Absolument.
En Russie, notamment les journalistes d'investigation et ceux qui enquêtent sur la Tchétchénie.
Et bien, si tous les trois on a fait du bon boulot, tant mieux.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.